Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le pape François est à Bahreïn pour une visite de 4 jours, un déplacement pour approfondir le dialogue interreligieux. Nous y reviendrons avec le père Vincent Feroldi, historien prêtre du diocèse de Lyon, ex-directeur du service national pour les relations avec les musulmans de l'Église catholique en France. La COP27 s'ouvrira dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, une conférence internationale sur le climat dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et ses conséquences déstabilisatrices sur le marché de l'énergie. Qu'il retourne en Afrique, les propos d'un député RN lancé hier à l'Assemblée nationale lors de l'intervention du député LFI, Carlos Martins Bilongo, ont suscité un tollé au sein de la classe politique. Le député posait une question au gouvernement sur l'immigration clandestine. L'Assemblée nationale vote la sanction la plus lourde à l'encontre du député RN Grégoire de Fournasse, la censure avec exclusion temporaire. Après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, nous écouterons le chef de file de la France insoumise à Saint-Denis, Bali Bagayoko. Les élections législatives du 17 décembre en Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a validé 1058 candidatures. Israël sera gouverné par la coalition la plus à droite de son histoire. Le vainqueur des élections législatives, Benjamin Netanyahou, doit former une coalition avec les partis de l'extrême droite. Épidémie de choléra au Liban, 7 nouvelles contaminations ont été recensées par le ministère de la Santé. Nos besoins n'ont jamais été aussi importants, le constat de Camille Vega, directeur de la Fédération du Bas-Rhin du Secours Populaire. Il sera l'un de nos invités et réagira à l'annonce d'un fonds pour une aide alimentaire durable de 60 millions d'euros en 2023. Une annonce hier de la Première ministre Elisabeth Borne. Le pape François est arrivé hier à Bahreïn pour une visite de 4 jours. Cette visite, la 39e à l'étranger de François, est la seconde dans la péninsule arabique depuis son voyage historique aux Émirats Arabes Unis en 2019. Visite placée sous le signe du dialogue interreligieux, entretien avec le père Vincent Feroldi, historien, prêtre du diocèse de Lyon, ex-directeur du service national pour les relations avec les musulmans.
Ce voyage qui est le 39e est important parce qu'il s'inscrit justement dans toute une série de voyages et dans le désir constant du pape François de tisser lui-même des ponts, mais d'inviter les différents peuples, les différentes traditions religieuses et l'ensemble en fait des acteurs autant économiques que politiques à établir des ponts entre tous dans la reconnaissance de nos diversités, mais dans le souci du service du bien commun. Et ce voyage est d'autant plus important que le monde est confronté depuis plusieurs mois à des événements très graves. On pense avant tout à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais on peut penser aussi à toute la question climatique et puis aussi à de nombreux problèmes sociaux et entre autres aussi de défense des droits fondamentaux de tous. Que voilà, le pape souhaite aller à la rencontre d'autres et avec d'autres. C'est ça qui est important, vraiment tisser des ponts d'une coexistence qui montre bien une fraternité forte entre tous.
Et ce vendredi a été marqué par une rencontre avec le grand imam d'Al-Azhar, avec lequel il avait signé à Abu Dhabi un document fondateur sur la fraternité humaine.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il répond effectivement à une invitation faite par le comité des sages musulmans, puis aussi par le roi du Bahreïn. Il rencontre et il est avec le grand imam El-Azhar, mais il est intéressant de noter que ce matin, il était aussi avec le patriarche Barthélemos de Constantinople, c'est-à-dire une des plus grandes autorités chrétiennes orthodoxes, et il faut savoir que le pape a écrit des lettres, s'appelle des encycliques, et la deuxième, justement, touchant un petit peu à la question climatique, il l'avait faite à la suite d'une rencontre avec le patriarche. Et la lettre suivante qui concernait finalement la fraternité, il l'avait fait suite à la rencontre avec le grand imam. Et donc cette rencontre de ce matin avec des chefs religieux de toutes les traditions montre que c'est avec ces personnes, ces acteurs finalement de foi, de croyants, qui se placent sous le regard de Dieu, qu'il veut montrer que c'est ensemble avec tous ceux qui le désirent qu'il faut avancer pour établir finalement, comme il a dit, non pas une indifférence, voire une opposition, mais une fraternité entre nous tous.
Le pape François qui fait avancer le dialogue interreligieux.
Il souhaite vraiment le faire avancer, mais le faire avancer avec d'autres. Et il, au fil de ses voyages, il accentue, je dirais, une certaine pression pour que les hommes de foi, les hommes et les femmes de foi, osent aller plus loin. Et ainsi aujourd'hui, il a dit la liberté de culte, ok, mais il faut qu'elle soit aussi de la liberté religieuse, de la liberté de conscience. Et en même temps, il a dénoncé, mais aussi avec les autres acteurs présents à ce forum, d'une manière très forte, que la guerre n'est plus pensable et que de cette course à l'armement dont on est témoin actuellement, avec ce conflit en particulier au niveau de l'Ukraine et de la Russie, n'est plus acceptable et qu'on joue avec le feu alors qu'il faut bâtir un monde de justice et de fraternité.
Le père Vincent Feroldi, historien, prêtre du diocèse de Lyon, ex-directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique. La COP27 s'ouvrira dimanche prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte, une conférence internationale sur le climat, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et ses conséquences déstabilisatrices sur le marché de l'énergie. Des représentants de près de 200 pays sont attendus. Ce sommet va offrir aux États un espace où débattre des actions climatiques pour maintenir la hausse des températures à 1,5 degré. La COP avait été instituée lors de l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Elle se réunit chaque année depuis 1995. C'était hier après-midi à l'Assemblée nationale. Un député du Rassemblement national a lancé qu'il retourne en Afrique après une prise de parole de l'élu La France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, sur l'immigration clandestine. La séance des questions au gouvernement a immédiatement été interrompue après ses propos à teneur raciste. Emmanuel Macron s'est dit heurté par des propos intolérables. Le député Rassemblement national Grégoire de Fournas écope de la censure avec exclusion temporaire de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter ce qui s'est passé hier au sein de l'hémicycle.
Avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage, les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau.
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, la question du député LFI portait donc sur la situation de candidats à l'exil situés sur le bateau de SOS Méditerranée. L'ONG en a appelé hier pour la première fois à la France, l'Espagne et la Grèce pour l'aider à trouver un port sûr pour débarquer 234 migrants secourus par son navire Ocean Viking avant que la météo ne se dégrade. Sur cette situation, puis sur les propos du député Rassemblement national, le chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, Bali Bagayoko.
D'abord, déjà, toute ma pensée les plus sincères à celles de ceux qui sont en exil, qui fuient des régions du monde qui sont menacées par leur vie et qui vivent des situations atroces, et c'est la raison pour laquelle ils fuient ces pays-là. Et donc, c'est une pensée très attristée en endroit de ces personnes-là. La deuxième chose, c'est que les organisations font un travail, et je tenais particulièrement à aussi saluer le travail important qui est fait. Et dans une Europe qui s'est dit humaniste, en fait, on n'avait pas à demander, en fin de compte. Les ONG n'ont pas à demander, elles sont obligées de le faire parce que, entre guillemets, les États fonctionnent de manière nombriliste, égoïste, et voire même de manière criminelle. Ces personnes doivent être sauvées, ces personnes doivent être protégées, et ces personnes doivent être mises à l'abri. Et donc, la question qui a été posée par le député Carlos Martins Bilongo est juste. Et donc, désormais, la France a une obligation d'apporter des réponses immédiate pour secourir ces personnes-là. Et donc ça, c'est l'urgence du moment, même si cette urgence du moment a été malheureusement évacuée avec la situation de racisme qui doit, cette fois-ci, être condamnée et bien sûr sanctionnée le plus sévèrement possible. Il nous faut immédiatement prendre des dispositions pour protéger ces personnes. C'est le minimum aujourd'hui que l'État français peut faire.
Et c'est justement lors de cette question que ce député du Rassemblement national a lancé qu'il retourne en Afrique.
C'est un double acte raciste. Quelles que soient les gesticulations oratoires que ce raciste en puissance, en la personne de Grégoire de Fournes, essaye piteusement, en fin de compte, je veux dire, d'expliciter ce qu'il a voulu dire en se déjugeant, sans se déjuger, en disant qu'il ne prendrait pas des excuses et ensuite donnant des excuses, ces excuses sont irrecevables. C'est un raciste. Il doit, et ça c'est la population, qui doit agir massivement pour obtenir la démission de ce député raciste. Et tous celles et ceux d'ailleurs qui le soutiennent doivent aussi en prendre la responsabilité première. Donc nous apportons l'intégralité de nos soutiens, bien sûr, au député Carlos Martins Bilongo. Au même titre de Carlos Bilongo, c'est aussi l'ensemble, entre guillemets, des élus de la République qui sont racisés, qui sont victimes de racisme, qui sont victimes de propos haineux. Et j'ai une pensée particulière en l'endroit, d'ailleurs, de Hazim Tabi, maire de Stein, qui, avec son équipe municipale, a aussi été insulté, a aussi été victime de propos racistes de la part de Action française.
Carlos Martins Bilongo, qui a reçu le soutien de nombreux responsables politiques du côté des Républicains, de Renaissance également, du président de la République aussi.
Ça, c'est très clair. Et donc, je trouve que déjà, même si c'est quelque chose qui relève, entre guillemets, du bon sens, mais le faire au Nord, parce que la NRM, Renaissance, tout le courant de la droite extrême, c'est quand même souvent habitué à ne pas réagir sur ces actes, parfois même à les encourager, puisque nous n'oublierons rien, malgré le fait que le président de la République a apporté son soutien, qui était quand même le minimum à faire, nous n'oublierons rien de la responsabilité particulière de la NRM dans la progression à la fois de l'extrême droite dans ce pays, et particulièrement au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont fait le choix lors des élections législatives de plutôt soutenir des candidats de l'extrême droite plutôt que des citoyens ou des candidatures républicaines.
Le chef de file de la France insoumise à Saint-Denis, Bali Bagayoko, vainqueur des élections législatives en Israël, Benjamin Netanyahou a lancé les tractations avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Son objectif, former un gouvernement, un cabinet qui pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël. Cela suscite des inquiétudes internationales et locales. Les élections législatives le 17 décembre prochain en Tunisie. Le scrutin à l'étranger aura lieu les 15, 16 et 17 décembre. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé que 1058 demandes de candidature ont été validées, réparties sur 936 hommes et 132 femmes, sur un total de 1427 demandes déposées pendant les deux périodes de dépôt des candidatures. La campagne électorale démarrera le 25 novembre pour se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. L'épidémie de choléra au Liban, 7 nouvelles contaminations ont été recensées par le ministère de la Santé, selon un communiqué publié ce matin. Il y a 413 cas confirmés enregistrés depuis la réapparition de la maladie le 5 octobre dernier. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde lundi contre une propagation rapide de la maladie au Liban, maladie qui sévit aussi en Syrie voisine. Elisabeth Borne a annoncé hier la création d'un fonds pour une aide alimentaire durable de 60 millions d'euros en 2023. La première ministre française précise que cette somme ira à la fois aux grands réseaux nationaux d'aide alimentaire et à des projets locaux à travers des préfets de région. Camille Vega, directeur de la Fédération du Bas-Rhin du Secours Populaire, constate que de plus en plus de personnes viennent solliciter l'aide de l'association Entretien.
Nous, ce qu'on constate au niveau du Secours Populaire, c'est une forte augmentation du nombre de personnes qui viennent solliciter notre aide, notamment sur l'aide alimentaire. Donc c'est une constatation qui est faite dans l'ensemble des antennes du Secours Populaire sur la France, avec voilà des niveaux différents. C'est une augmentation qu'on constate qui est continue très clairement depuis la crise de la Covid et ses conséquences. Hein. Donc c'est quelque chose qui a eu un très fort pic au moment du confinement, qui s'était un peu calmé, mais où du coup l'enchaînement des crises successives fait que on a toujours plus de personnes qui viennent nous solliciter et qui s'en sortent plus. Nous, par exemple, dans le Bas-Rhin, pour vous donner un exemple très concret, entre 2020 et 2021, on a constaté une augmentation de 60% du nombre de personnes qu'on a pu aider sur l'aide alimentaire. Et sur 2022, on constate une augmentation qui continue également. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui viennent nous solliciter pour de l'aide alimentaire, puisque pour vous donner un exemple, auparavant, quand les personnes passaient en permanence d'accueil pour solliciter une aide et où donc elles recevaient un rendez-vous, En général, le temps d'attente était de 1 semaine, voire 2 semaines maximum. À l'heure actuelle, on est plus sur un temps d'attente de 5 à 6 semaines.
Et quel est le profil de ces personnes? Il est varié, j'imagine.
Vous avez, oui. Le Secours Populaire, on est dans un accueil inconditionnel. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment une grande diversité de profils des personnes. Hein. Donc, vous avez les personnes qui sont en parcours migratoire, vous avez des personnes qui sont aux minima sociaux. On a également de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir, mais aussi de retraités, parce que leur pension de retraite ne suffit plus avec l'augmentation des prix. Et puis, on a également de plus en plus ce qu'on appelle, entre guillemets, les travailleurs précaires. Donc ça va être les personnes qui soit enchaînent les contrats de courte durée, qui donc sont sur une phase d'emploi, ensuite une phase de recherche d'emploi, une nouvelle phase d'emploi, etc. Et donc ce qui fait que leurs revenus sont variables, et où par contre les dispositifs de soutien n'arrivent pas entre guillemets à suivre l'évolution de leur situation et donc qui les met en difficulté. Mais vous avez aussi ceux qui sont en CDI ou en contrat de longue durée, mais sur juste quelques heures par semaine, et qui donc ne leur permet pas d'avoir des moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins, quoi. Et donc ça, clairement, on constate un nombre de personnes de ce profil-là de plus en plus important.
Ces personnes qui sont appelées les travailleurs pauvres.
Exactement, tout à fait.
La hausse des prix, cette inflation galopante, notamment en France, a un impact sur les dons auprès du Secours Populaire?
C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce qu'on sort d'une période assez exceptionnelle qui était au moment du confinement par rapport aux donateurs. Donc ce qui fait qu'effectivement, quand on compare entre la période de la Covid, on constate clairement une baisse des dons. En revanche, quand on compare le niveau des dons avant la période Covid, on a un montant plus important. Effectivement, là, à l'heure actuelle, par rapport à 2020 ou 2021, on est sur une baisse du niveau des dons. En revanche, quand on compare à 2019 ou 2018, en tout cas pour la Fédération du Bas-Rhin, du Secours Populaire, on est à un niveau qui est plus élevé. Par contre, ce qui est clair, c'est que nos besoins, eux, n'ont jamais été aussi importants, puisque, comme je vous le disais, on a un nombre de personnes de plus en plus important qui vient nous demander un coup de main. Et en plus, les particuliers, le Secours Populaire doit aussi payer des factures, etc. Et donc, souffre également de l'augmentation des prix, hein, tout simplement.
Et face à cette situation, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé un fonds pour une aide alimentaire durable, un fonds d'un montant de 60 millions d'euros, cela pour l'année prochaine. Comment vous accueillez cette annonce? Est-ce suffisant selon vous?
Nous, on ne peut que se réjouir de nouveaux dispositifs de soutien aux personnes en situation de pauvreté, d'autant plus que cette démarche de pouvoir aller faire des achats de produits locaux, c'est une démarche que le Secours Populaire a engagée depuis maintenant plusieurs années, où on travaille en lien étroit avec les producteurs, le milieu agricole, et en particulier sur des achats locaux, puisque l'objectif c'est aussi de mettre en place une solidarité vis-à-vis des producteurs et de développer les circuits locaux. En revanche, ce qui est clair, c'est que c'est, à notre sens, insuffisant.
Camille Vega, directeur de la Fédération du Bas-Rhin du Secours Populaire, fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.